Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et toute la bande, à demain, nous c'est parti. Comme tous les soirs, on est bien là, installez-vous et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme tous les soirs, qui commence avec le premier grand journal du soir, c'est Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi 29 août commence avec un retour de bâton.
Une loi pour la parité qui se retourne contre un élu parce qu'il a nommé trop de femmes. C'est à Bourg-en-Bresse, 90 000 euros d'amende pour avoir été très féministe. Lui écope d'un avertissement de la part des patrons à l'université d'été du MEDEF. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, fraîchement accueilli aujourd'hui. Le virage du gouvernement après la crise des Gilets jaunes ne plaît pas à tout le monde. 60 retenues d'eau en France pour permettre aux agriculteurs de passer les épisodes de sécheresse. Une victoire pour les paysans, pas pour les défenseurs de l'environnement. Et puis une nouvelle médaille d'or pour le judo français. Marie-Ève Gaillé, un combat de 48 secondes et le titre mondial pour une toute jeune championne. Une très belle journée demain. La météo à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
Un jour dans le monde à 18h15 avec les Italiens qui refont une alliance baroque mais cette fois à gauche. Est-ce que ça peut marcher? Il s'est tiré une balle dans le pied Salvini, mais est-ce que ça l'empêche vraiment de rebondir? On en parle avec Marc Lazare, c'est le premier invité ce soir. Le bruit du monde est à Cuba, dans les porte-monnaies, vous verrez. Puis le téléphone sonne à vos appels. On regarde arriver ce soir les plateformes Disney, Apple qui font leur entrée cet automne pour concurrencer Netflix. La fin du règne sans partage, le début de la guerre des plateformes. Mais qu'est-ce qu'on y gagne, nous, si on nous saucissonne les offres? On voit ça ensemble, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les amendes pour davantage de parité appliquées aussi quand il y a trop de femmes.
Une sanction a été prononcée contre la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. 90 000 euros à payer car dans les 5 dernières nominations sur les postes de direction, 4 femmes et un seul homme. Yael Gauss, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Alors Bourg-en-Bresse est victime aujourd'hui d'être un trop bon élève?
Oui, la loi de 2013 sur la parité dans les collectivités tolère des écarts jusqu'à 60-40, mais au-delà, le préfet, et c'est ce qui s'est passé, est obligé de constater une entorse à la règle. Jean-François Debat, le président de l'Aglo, a donc procédé à 5 recrutements, vous le disiez, au sein de la direction de sa collectivité. Un seul homme pour 4 directrices, une faute. Jean-François Debat, le maire socialiste de Bourg-en-Bresse, doit payer une amende bien trop lourde à son goût.
C'est cocasse et pour le moins contradictoire avec l'objectif de la loi qui en réalité vise à ce qu'il y ait plus de femmes à des postes de responsabilité effective. Et l'idée d'être sanctionné pour avoir trop de femmes à des postes de responsabilité, c'est quand même très paradoxal. Et je me disais que quelque part, la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse, c'était une forme de compensation d'un déséquilibre qui existe ailleurs. Et ça m'ennuierait à l'avenir non seulement de payer cette somme, mais que le prochain recrutement, on doive mentionner sur l'appel à candidature que le poste est réservé à un homme. Ça me paraît quand même pas très logique.
Car Bourg-en-Bresse n'est pas la France et au niveau national, dans les collectivités, la domination masculine dans l'encadrement est encore très nette. En moyenne, 3 femmes pour 7 hommes. Le maire a donc décidé d'interpeller le gouvernement et au premier chef Marlène Schiappa en charge de l'égalité homme-femme. Selon nos informations, la patate chaude vient d'être refilée à un autre ministère, celui de la fonction publique. Et Jean-François Debat n'est pas pressé de payer cette drôle d'amende.
Yael Gauss, chef du service politique de France Inter. La politique et la justice, c'est aussi ce soir l'affaire des sondages de l'Élysée. Proches de Nicolas Sarkozy sont renvoyés devant un tribunal correctionnel dont Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, et Patrick Buisson, alors conseiller du président. Ils sont poursuivis pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence quand l'Élysée commandait des sondages sans appel d'offres, sans respecter les règles des marchés publics. Nicolas Sarkozy, invité vedette de l'université d'été du MEDEF aujourd'hui. Si l'ancien chef de l'État a promis devant les patrons de ne plus avoir d'ambition électorale, il n'a pas manqué de s'exprimer. Mais sur Emmanuel Macron, il a salué notamment son rapprochement avec la Russie. Salut également à Gérald Darmanin, leur relation serait quasi filiale. Un appui bienvenu pour le jeune ministre de l'Action et des Comptes Publics, tant l'accueil du MEDEF a été frais aujourd'hui. Faustine Calmel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette université d'été à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Les entrepreneurs ont des raisons de se méfier de Bercy aujourd'hui?
Il reste en tout cas très offensif sur l'impôt de production, trop lourd pour la compétitivité, sur l'achat aux niches fiscales, sur les dépenses publiques à réduire. À la tribune, c'est l'une des prédécesseurs de Gérald Darmanin au budget, Valérie Pécresse, aujourd'hui présidente de la région Île-de-France, qui fait la leçon.
Ça nécessite effectivement, non pas de faire des rabots, mais de couper là où ça n'est pas nécessaire de dépenser. Et ça demande un certain courage.
Merci de votre invitation sympathique.
Gérald Darmanin qui tente de faire bonne figure, mais ne plie pas, et tente de prendre de la hauteur.
Vous défendez un intérêt, qui est un intérêt patronal, et il est à entendre. La différence du ministre des Comptes publics, c'est d'essayer de gérer l'intérêt général. Il ne peut pas y avoir un égoïsme qui est considéré que l'intérêt défendu est le seul si on était en responsabilité.
Et Gérald Darmanin brandit alors la menace d'une nouvelle crise.
Attention à ce que le devoir d'équilibre entre les Français qui souffrent et ceux qui, peut-être, demandent encore plus de baisse d'impôts, de libéralisme, ne crée pas la situation italienne qu'a évoqué le président Sarkozy, un pays fracturé, parce que devant la baisse d'impôts, la stabilité fiscale, je pense que ce qui est le plus important pour les entreprises, c'est la stabilité politique. Nous l'avons parce que nous sommes une démocratie qui essaye de tenir ce point d'équilibre.
Un point d'équilibre qui reste à trouver pour le budget 2020, bousculé par le coût des mesures gilets jaunes.
Merci Faustine Calmel. Le gouvernement attendu sur les questions écologiques également. Édouard Philippe, en déplacement à Roubaix dans le Nord ce matin, l'a juré, le verdissement de sa politique n'est pas un choix de circonstance. Mais voilà qui va déplaire aux défenseurs de l'environnement. Son ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, vient d'annoncer la mise en place d'une soixantaine de retenues d'eau cette année. Mesure pour affronter la sécheresse, pour mieux gérer l'irrigation des terres agricoles. Cela faisait des années que les paysans réclamaient ces retenues, Manuel Ruffez.
Et oui, ce sont souvent des projets bloqués par des recours engagés par des associations de défense de l'environnement. Mais cette fois, promet le ministre, en accord avec le ministère de la Transition écologique et avec arbitrage du Premier ministre lui-même, c'est reparti pour ces retenues d'eau. Didier Guillaume, ce matin sur CNews.
On ne va pas regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et la chercher les 6 autres mois de l'année. Il s'agit de capter l'eau de pluie, la retenir dans des bassins pour pouvoir la restituer après dans les sols lorsqu'il y a sécheresse. Là où on peut irriguer, il n'y a pas de sécheresse. L'agriculture sera résiliente si elle est irriguée.
Et c'est une bonne nouvelle, dit aujourd'hui Pierre Vincent, qui s'occupe de la gestion de l'eau à la Chambre d'agriculture du Tarn, à condition d'aller jusqu'au bout.
On est forcément très content, mais ça fait suite quand même à d'autres annonces qu'on avait eues et qui n'ont pas été suivies d'effet. Donc on se méfie un petit peu des promesses. Les arrêtés de création sont attaqués. Donc c'est souvent l'État qui est attaqué. Donc l'État est de plus en plus frileux aussi parce que ça ne lui fait pas plaisir d'être devant les tribunaux.
Et le ministre ce matin a rappelé qu'en 15 ans, les agriculteurs étaient parvenus à réduire leur consommation d'eau de 30%.
Merci Manuel Ruffez.
De la prison ferme pour des militants d'extrême droite.
Ceux de Génération Identitaire, le tribunal de Gap a condamné 3 responsables du groupuscule à des peines de 6 mois ferme pour avoir mené des actions contre les migrants dans les Alpes. C'était au printemps de l'an dernier. Ils avaient organisé des barrages humains dans la montagne pour éviter le passage entre l'Italie et la France. Les précisions d'Olivier Martoc.
Les militants de l'association d'extrême droite avaient mené plusieurs opérations anti-migrants au printemps 2018 dans les Alpes à la frontière entre l'Italie et la France. La plus spectaculaire avait eu lieu le 21 avril au col de l'Échelle. Une centaine de personnes vêtues de la même doudoune bleue avaient ratissé un large périmètre tandis que 2 hélicoptères tournaient dans le ciel. Les réseaux sociaux avaient largement relayé ces images. Dans les semaines suivantes, les militants d'extrême droite avaient annoncé des interceptions de migrants et des enquêtes sur les passeurs. Ce sont ces actions, qui ne relèvent que de la police judiciaire, qui ont fait condamner à 6 mois de prison ferme les 3 plus actifs du groupe. Clément Gandelin, dit Galant, 24 ans, président de Génération Identitaire, son porte-parole, Romain Espineau, 26 ans, et un organisateur actif, Damien Lefebvre, dit Rieux, 29 ans. L'association écope de 75 000 euros d'amende pour avoir entretenu une confusion avec l'exercice d'une fonction publique. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et de l'autre côté des Alpes, en Italie, Matteo Salvini et sa politique fermement anti-immigration se retrouvent sur la touche ce soir. Son ex-allié au gouvernement, le mouvement 5 étoiles, a conclu une alliance avec le Parti démocrate. Le Premier ministre sortant, Giuseppe Conte, a officiellement accepté de former un nouveau gouvernement. Il a promis ce matin, après sa rencontre avec le président Mattarella, un nouvel humanisme et une relance économique de l'Italie. En revanche, au Royaume-Uni, la fin de la crise est loin d'être en vue. Au lendemain du blocage du Parlement par le Premier ministre Boris Johnson, une pétition rassemble déjà près d'1,5 million de signataires. Ils demandent que les travaux parlementaires ne soient pas suspendus avant le 31 octobre, la date choisie pour le Brexit. Des opposants ont également décidé de s'engager dans une bataille judiciaire. Ils refusent d'être muselés au moment où le chef du gouvernement veut faire sortir le Royaume de l'Union européenne sans accord, un no deal. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Amélie.
Quelles sont les chances pour ces recours judiciaires d'aboutir ?
Eh bien, la marge de manœuvre semble très étroite. Si l'initiative du Premier ministre est critiquable d'un point de vue politique, elle n'en reste pas moins dans les clous du droit. C'est toute la différence entre légitimité et légalité. Alors, les juges pourraient certes estimer qu'en suspendant si longuement les sessions du Parlement, Boris Johnson a détourné la procédure dans le seul but de museler les députés. Mais ce serait là, estime Aurélien Antoine, il est professeur de droit public à l'Université de Saint-Étienne, ce serait là faire preuve d'une grande audace.
Encore faut-il accepter que le Parlement a bien été muselé. Ce qui est certain, c'est que justement, le Parlement s'est bien exprimé pendant des mois. Et ensuite, il y a une fenêtre de tir au mois de septembre et une fenêtre de tir à partir du 14 octobre. Certes très réduite, mais elle existe. Donc il faudrait vraiment que les juges aillent quand même très loin pour considérer que ce n'est pas suffisant et que par conséquent, il y a bien eu un déni des droits du Parlement.
Reste Amélie aux adversaires de Boris Johnson la possibilité de voter une loi excluant un no deal à la reprise des travaux du Parlement la semaine prochaine. Encore faut-il qu'ils réunissent une majorité ou à faire voter une motion de défiance et proposer une nouvelle équipe gouvernementale, ce qui impliquerait là encore de surmonter des divisions profondes entre et au sein des partis. Aucune de ces solutions n'a aujourd'hui de garantie de succès.
Marie-Pierre Véraud, merci à vous. Et Ruth Davidson, la chef du Parti conservateur en Écosse, très populaire, a décidé pour sa part de présenter sa démission pour protester contre ce passage en force de Boris Johnson, un coup dur pour le Premier ministre, car elle a participé largement au retour en force des conservateurs en Écosse. À l'étranger encore, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov peut être bientôt relâché. Il a été transféré à Moscou pour être échangé contre un journaliste ukraino-russe. Sentsov, réalisateur soutenu par nombreuses personnalités en Occident, a été condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes en Russie. À un procès stalinien, a dénoncé Amnesty International. Les FARC sont-elles sur le point de reprendre les armes en Colombie? D'anciens chefs de la guérilla marxiste l'annoncent, en tout cas, dont l'ex numéro 2, Ivan Marquez. Il dénonce l'accord de paix conclu avec l'État colombien en 2016. Une trahison, selon le commandant Marquez. C'est un récit d'Omar Waman.
Entouré d'une dizaine de combattants armés, dont deux femmes, l'ex numéro 2 des FARC, Ivan Marquez, annonce la reprise de la lutte armée dans une vidéo diffusée sur YouTube et reprise en boucle dans les médias colombiens. Car c'est un coup très dur porté à l'accord de paix signé en 2016 qui a permis le désarmement de près de 7000 guérilleros et mis fin à plus de 50 ans de guerre fratricide. L'objectif de cette nouvelle guérilla, combattre l'oligarchie et la corruption, déclare Ivan Marquez aux côtés de Jesús Santrich, autre ex-dirigeant des FARC, vêtu d'un trivert, il laisse entendre qu'il renonce aux enlèvements contre rançon, pratique particulièrement impopulaire en Colombie, avant d'accuser le gouvernement de ne pas avoir respecté les termes de l'accord de paix, comme la réforme agraire censée remédier à l'inégale répartition des terres dans le pays. Difficile de savoir exactement la taille de cette nouvelle guérilla, mais selon l'armée colombienne, ce groupe dissident compterait environ 2300 combattants.
Allez Amélie, on termine avec du judo et un titre mondial pour une jeune championne française.
De l'or pour Marie-Ève Gaillet aux mondiaux de judo à Tokyo. Elle monte sur la première marche du podium dans la catégorie des moins de 70 kilos. Marie-Ève Gaillet suit les pas de sa grande sœur, entre guillemets, Clarisse Agbenienou, sacrée hier à Tokyo chez les moins de 63 kilos. Jérôme Val.
La même image en deux jours sur les tatamis japonais, un visage radieux, celui cette fois de Marie-Ève Gaillet qui, comme Clarisse Agbenienou hier, s'est laissée enivrer par sa première médaille mondiale. Cette fervente croyante a levé les yeux au ciel pendant de longues secondes après un combat expédié en 48 secondes à peine et après une journée quasi parfaite où aucune de ses adversaires n'a résisté à sa fougue. En deux ans, Marie-Ève Gaillet a gravi tous les échelons, médaillée de bronze européenne en 2017, médaillée d'argent l'an passé aux mondiaux, souvenir qui l'avait laissé inconsolable, la voilà vengée. Qui plus est, dans la salle de Tokyo qui accueillera les Jeux dans 11 mois, prochain objectif pour la Parisienne qui marche désormais dans les pas de Clarisse Agbenienou, 4 couronnes mondiales à son actif. Sa grande sœur, comme aime la qualifier Marie-Ève Gaillet, désormais deuxième judokate mondiale dans sa catégorie.
Et ce titre et les deux médailles de bronze également récoltées par Margot Pinault et Axel Clerget permettent aux Bleus de se placer à la deuxième place du classement des nations derrière le Japon. Et puis la mort d'un grand comédien français, Michel Aumont. Il avait 82 ans, sociétaire de la Comédie Française. Il avait tourné au cinéma aussi avec Tavernier dans Des Enfants Gâtés ou encore Claude Lelouch dans Edith Et Marcel, on y reviendra dans le journal de 19h de Sébastien Pourri.
Par exemple, Amélie Perrier. Merci beaucoup et à tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Ce soir, nous allons aussi essayer de comprendre l'alliance renversée des Italiens. Nous sommes également à Cuba qui jongle avec sa monnaie officielle et sa monnaie officieuse. Et puis deuxième heure, cette fois, c'est à vous de jouer au 01 45 24 7000. Le téléphone sonne. Ce soir, on se met devant la télé, mais comme tout le monde, on boude désormais les chaînes. On est devant Netflix qui peut-être vit sa dernière année de tranquillité puisque Disney arrive, Apple aussi, concurrence acharnée des plateformes. Mais est-ce que nous, les amateurs de séries et de cinéma, on va s'y retrouver? Est-ce qu'on va devoir jongler, sacrifier des abonnements? Qu'est-ce que ça change aussi pour la vraie télé si elle veut tenir le coup? À vous de nous le dire donc, 01 45 24 7000. L'œil sur le ciel en attendant, pas mal pour un jeudi et pour un vendredi demain d'ailleurs aussi, Élodie Calaca.
Oui, alors il va faire chaud hein, demain le matin, encore 20 à 23 degrés en Méditerranée, 15 à 19 ailleurs. Un peu de patience quand même sur le nord-ouest et au nord de la Seine, là il fera seulement 9 à 13 degrés. L'après-midi, ça va monter, 24 degrés à Dinard, à Amiens, 28 à Paris, 30 à Tours et Besançon, 32 degrés à Bourges, à Bordeaux, 34 à Toulouse, 35 à Montélimar et même 37 à Nîmes.
Et donc tout ça évidemment sous le soleil.
Eh oui, beaucoup de soleil, quelques bémols malgré tout sur les côtes du sud-ouest, un peu de grisaille le matin, vite oublié. Sur le nord-ouest, le bassin parisien, au nord de la Seine, un soleil parfois un petit peu blanchi par des nuages élevés, sans conséquence. Et puis on a toujours ce risque d'orage sur les Pyrénées, le relief Corse, le Jura, un risque un peu plus marqué des Alpes jusqu'à l'intérieur de la Provence.
Élodie Calaca de Météo France, merci beaucoup, à tout à l'heure après 19h.